السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc nous allons continuer le khutbah al-jum'ah du vendredi dernier, donc sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les louanges vont à Allah, le Seigneur des mondes. Je témoigne qu'il n'y a de divinité que Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, que les prières et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, la semaine dernière, nous avions commencé à évoquer l'histoire de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous y avions vu comment il prit à témoin 100 000 compagnons qui l'ont témoigné lors de son unique pèlerinage et comment ils témoignèrent tous que sa mission était accomplie. Nous avions ensuite évoqué le fait que seul Abu Bakr, radiallahu anhu, avait compris que la révélation de la sourate An-Nasr, la victoire, annonçait la mort prochaine du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, partit un peu plus tard saluer les morts de Uhud, puis ceux de Baqi', le cimetière principal de Médine. Nous avions vu également que la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait conduire à sa mort. Avait commencé par un mal de tête et que cette maladie dura 13 longues journées. Nous avions aussi raconté comment se déroula la dernière apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam en public et comment le compagnon Ukasha jeta son visage contre la poitrine dénudée du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Car il savait que c'était la dernière fois qu'il allait le voir. Nous avions terminé en faisant remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne possédait rien avant sa mort, si ce n'est 7 dinars, son âne et son épée, donna tout cela en aumône avant son départ. Aujourd'hui, le début de notre récit se situe le jour de sa mort, dans sa chambre. Dans ses derniers instants, il sallallahu alayhi wa sallam était accompagné par son épouse Aïcha, radiallahu anha. Ils invoquaient tous les deux le Très-Haut, lui faisaient des invocations, et Aïcha lui lisait du Coran. En faisant cela, elle prenait sa main et le caressait avec sa propre main, car elle savait que celle-ci avait plus de bénédiction et de noblesse que sa main à elle. La main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était à ce moment-là lourde, comme celle d'un inconscient. Abdurrahman ibn Abu Bakr, le frère de Aïcha, entra dans la pièce avec un bâton de siwak dans la bouche. Le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce siwak montrait clairement qu'il voulait du siwak. Aïcha vit sur quoi le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé. Alors elle retira le siwak de la bouche de son frère et le donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se frotta alors les dents avec une vigueur qui faisait un énorme contraste avec l'état de fatigue dans lequel il se trouvait. Aïcha, radiallahu anha, faisait des invocations. Elle disait « Que Allah te soulage, que Allah te soigne, que Allah efface tes douleurs. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondait « Ila rafiq al-a'la. » Je préfère rejoindre le compagnon suprême, avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie que celle-là. Puis il s'adressa de nouveau à Allah et dit « Malheur, malheur à ceux qui ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux de prière. Ô Allah, fais que mon tombeau ne soit pas une idole que les gens adorent. Fais que mon tombeau ne soit pas une idole que les gens adorent. Fais que mon tombeau ne soit pas une idole que les gens adorent. » Il, sallallahu alayhi wa sallam, arriva donc à l'étape à laquelle chacun de nous arrivera. Aucun n'en réchappera. Il était sur le point de mourir, comme tous les hommes meurent. Il prit un morceau de tissu à côté de lui, le trempa dans l'eau et couvrit son visage avec le tissu humide en disant « La ilaha illallah, certes la mort est un moment d'agonie. La ilaha illallah, ô Allah apaise-moi les affres de l'agonie de la mort. La ilaha illallah, ô Allah allège-moi les affres de l'agonie de la mort. » Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « En vérité tu mourras. » Et ils mourront eux aussi. Sourate les groupes, Azuma. Allah dit aussi, Mohammed n'est certes qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourniez-vous sur vos talons. Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Il mourut donc, sallallahu alayhi wa sallam, en laissant derrière lui un héritage immense. Toi, moi, mon père, ton père, font partie de son héritage. Les millions de mosquées dans le monde, les millions de savants dans le monde, les millions d'hommes pieux dans le monde, la révélation, l'histoire, les peuples musulmans, la lumière, tout cela fait partie de son héritage, sallallahu alayhi wa sallam. Il a laissé derrière lui un message qui a atteint les trois quarts de la planète. On ne connaît d'homme qui ait laissé une influence aussi grande que la sienne dans l'histoire de l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, mes sœurs, tous les êtres humains meurent, qu'ils soient dirigeants, commandants ou chefs. Mais la mort du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est incomparable avec la leur, car il est bien au-dessus de n'importe quelle autre créature. Les cœurs des compagnons étaient sur le point d'exploser, car ils venaient de subir la plus grande des catastrophes, la mort de leur bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un poète disait, « Quel que soit le fléau qui t'atteint, rappelle-toi de la catastrophe qui représente la mort du messager d'Allah. » Oui, mes frères, le plus grand malheur qui ait jamais atteint le monde musulman est la mort de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons comment les compagnons ont réagi à la nouvelle de son décès. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était l'être le plus cher à leur cœur. Il était en permanence à leur conscience. À présent, il était mort. C'est lui qui leur faisait le discours du vendredi. C'est lui qui dirigeait leurs prières. C'est lui qui était leur enseignant et leur maître. C'est lui qui les guidait, les orientait et les dirigeait. Et à présent, il était mort. Il avait l'habitude de jouer avec les enfants, de porter les courses des personnes âgées et de subvenir aux besoins des pauvres. Et à présent, il était mort. Il les nourrissait avant de se nourrir, les abreuvait avant d'étancher sa propre soif. Il veillait pendant que eux dormaient. Il se fatiguait pour leur permettre à eux de se reposer. Et à présent, il était mort. Comment ont-ils réagi à sa mort? Quel a été l'impact de sa mort sur les compagnons? Lorsque les compagnons apprenèrent la nouvelle, ils se rassemblèrent. Les sons des pleurs se mélangeaient à ceux des femmes, des hommes et des enfants. Tous sanglantaient comme des enfants, y compris le chef de brigade et les dirigeants des champs de bataille. Et tous les grands noms, grâce auxquels une partie de l'histoire musulmane a été écrite, comme Khalid ibn Walid, Talha et Zubair. Même le puissant et robuste Omar ne pouvait tenir sur ses jambes et tomba entre les gens. Ils se rassemblèrent donc autour de la mosquée, dans un bruit terrible, mélangeant pleurs et soupirs. Abu Bakr était à ce moment-là occupé ailleurs, dans sa plantation de palmiers, en dehors de la ville de Médine. Il n'était même pas au courant du décès de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr était à ce moment-là occupé. Et donc, Omar se leva sur le minbar avec son épée et dit « Oh homme, je promets de couper la tête avec cette épée à quiconque ose prétendre que Mohammed est mort. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas mort. Il a été élevé au ciel, comme l'a été le prophète Moussa alayhi sallam, et il reviendra après une période de 40 jours. » Ceci fut la déclaration de Omar. Puis il redescendit de la chair et circulait dans la foule, puis surveillait qui oserait prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. La mauvaise nouvelle de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva jusqu'à Abu Bakr. Il monta sur son cheval et se dirigea vers la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il s'en remit à Allah. Abu Bakr était un homme saint d'esprit et rationnel, éloquent et sage. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le choisit pour être son successeur après lui. Lorsqu'il regagna la ville de Médine, il trouva une ambiance triste et désolée, où les enfants, les femmes et les hommes s'étaient rassemblés autour de la mosquée dans un vacarme de pleurs et de sanglots. Les gens se turent à son arrivée. Il ne dit rien et se contenta de glorifier le Seigneur et de demander pardon au Seigneur. Son cheval passa à travers la foule. Il descendit de sa monture et rentra directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il trouva le noble corps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il découvrit le visage du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et se pencha sur lui, et l'embrassa en pleurant. Il dit, ce que prétend Omar ibn Khattab est faux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien mort, je le jure. Miséricorde de Dieu soit sur toi, ô prophète d'Allah, tu sens si bon, vivant comme mort. Puis il essuya les larmes qui coulaient de sa barbe sur le front du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il essuyait les larmes, puis il embrassait le front qu'il venait d'essuyer. Ensuite, il sortit alors que Omar était encore en train de s'exprimer. Il demanda à Omar de se taire, s'appuya sur son bâton et prit la parole. Il dit, « Que ceux qui adoraient Mohammed sachent que Mohammed est mort, mais que ceux qui adorent Allah sachent que Allah est vivant et ne meurt jamais. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Omar accepta la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut un tel choc qu'il tomba par terre. Abu Bakr continua son discours en citant le verset du Coran suivant. « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. » Puis Abu Bakr invoqua Allah Azza wa Jal et partit en silence. Les gens se turent, le calme redescendit sur Médine et les consciences se calmèrent. Abu Bakr venait en effet de leur rappeler que l'unique Dieu, Allah Azza wa Jal, est bien vivant et ne meurt jamais. Allah est celui qui est l'unique en droit d'être adoré. Quant aux hommes, ils meurent tous et d'autres hommes les remplacent. Les hommes sont pauvres ou riches, ils arrivent ou partent. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est que l'un de ces hommes. Par conséquent, Allah l'a destiné aussi à mourir. Les compagnons dirent, « Oh Abu Bakr, choisissons un endroit noble pour enterrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un des quartiers de Médine. » Abu Bakr répondit non, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, « Quel que soit l'endroit où meurt un prophète d'Allah, c'est précisément à cet endroit-là qu'il doit être enterré. » Il fut donc enterré à l'endroit où Allah reprit son âme, c'est-à-dire dans sa pauvre petite demeure. Ils ôtèrent le modeste lit, puis creusèrent. Celui qui creusait était Abu Talha. Et lorsque la tombe fut profonde, le bruit des pleurs était insupportable. Alors ils s'apprêtèrent à laver le noble corps. Certains compagnons, dont Ali et Al-Abbas, dirent « Nous ne savons pas s'il faut ôter au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ses vêtements ou s'il faut le laver par-dessus ses vêtements. » Allah Azza wa Jal fit qu'ils perdirent toute connaissance pendant quelques secondes, temps pendant lequel les 6 ou 7 qui étaient dans la pièce entendirent la parole suivante. « Lavez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par-dessus ses vêtements. » Ils le lavèrent donc par-dessus ses vêtements. Au cours de la maladie qui allait conduire à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un jour, « Lorsque je mourrai, que vous m'aurez lavé et enveloppé dans mon linceul, laissez-moi au bord du tombeau, seul, pendant 1 heure, et attendez, car Allah va prier pour moi pendant ce temps-là. » Allah va en effet honorer son prophète sallallahu alayhi wa sallam en priant lui-même sur sa personne. Et le prophète continua et dit, « Puis laissez-moi encore seul pendant 1 heure, car les anges de mon Seigneur prieront pour moi. Ensuite, entrez chez moi par groupes successifs et que chacun de vous prie pour moi où qu'il se trouve, car votre prière me sera transmise. » Alors, après l'avoir lavé et enveloppé dans son linceul, ils profitèrent de l'extraordinaire odeur qui s'échappait de son noble corps. Ensuite, ils le laissèrent seul une première heure, puis une deuxième heure, puis ils prièrent pour lui. Le savant Al-Shawqani a dit, le nombre de ceux qui prièrent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de 30 000. Puis il fut enterré sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partit, mais en réalité il n'est pas parti. Comment pourrait-il partir alors qu'il est dans nos vies, tous les jours, à travers notre vue, notre ouïe, notre cœur et notre conscience? Comment pourrait-il partir alors qu'il nous a laissé les 2 mosquées sacrées, le Coran et la Sunna? Comment pourrait-il partir alors que lorsque nous prions, nous nous rappelons sa parole, « Priez comme vous m'avez vu prier ». Comment pourrait-il partir alors que lorsque nous accomplissons le pèlerinage, nous entendons en permanence sa parole qui nous dit « Prenez de moi les rites du pèlerinage ». Comment pourrait-il partir alors que nous suivons son enseignement, la Sunna, jusque dans les moindres détails dans notre vie quotidienne? Comment pourrait-il partir? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. » Pour quiconque expert en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Nous allons dénombrer quelques-uns des principaux devoirs que nous avons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier de ces devoirs consiste en le fait de multiplier les demandes de prière et de salut pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième devoir, vu que tu appliques sa sunna, donc ses enseignements, dans tous les aspects de ta vie. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran à ce propos: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas fait juge dans leur désaccord, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement. Un autre devoir que nous avons vis-à-vis de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est de propager son appel aux gens, que tu en parles et que tu sois un exemple. Et le dernier droit qu'a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur nous, est notre amour. Et que notre amour pour lui soit plus fort que pour toute autre créature. Qu'il soit plus fort que nos peines et qu'il soit plus fort que nos préoccupations. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله